Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Et la déception, elle est là, les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, je comprends, l'ambition était là. Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte. Pour pouvoir espérer plus, il fallait qu'on soit au maximum.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Aïe, 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 et oui, aïe, 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 18h tout pile sur RMC, on est dans Rotten sans flamme, on est à J-2 des vacances, J-2, deux émissions encore, on va faire le bilan de cette Coupe du Monde, pour l'instant, oui, on est à l'heure des bilans, hein. Nous, match de la troisième place, franchement, je laisse ça aux équipes du week-end d'RMC pour vous faire monter la sauce sur ce match cacahuète. En tout cas, nous, on va encore débriefer la défaite, malheureusement, de l'équipe de France contre l'Espagne. Et puis, revenir aussi sur l'Argentine. Quelle équipe. En fait, on aime le foot. Et on va vous en parler à partir de 19h. Une grande émission avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah ouais, ça va. J'ai des consultants qui se transforment en supporters argentins. Donc je sais pas ce qui se passe.
Non, passionné de foot. Voilà. Quand t'as des émotions, il faut le dire.
Ok.
Voilà. Écoute, si t'as pas d'émotions.
Si vous avez la mémoire courte et vous vous souvenez pas de 2022, tant pis pour vous. Hein.
Écoute, moi j'ai une vie bien remplie. J'ai plein d'émotions. Et j'en ai eu beaucoup encore hier en regardant l'Argentine. Okay. Un peu plus que l'Angleterre. Bon, on est avec Jean-Michel Larquet. Salut Jean-Mi.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Bonsoir Jean-Michel.
Ah Jean-Mi, c'est tout droit, hein. T'as vu, on l'avait dit. Hein.
Ah ouais?
Ouais, j'ai pris un coup sur le casque et je m'en remets pas.
Ah ouais, on a tous pris un coup sur le casque. Surtout toi, en plus, t'es bilingue, donc tu dois tout comprendre en espagnol.
Oui, c'est vrai que l'espagnol, c'est un peu.
J'ai pas besoin de comprendre, j'ai regardé le tableau d'affichage et j'ai regardé le match. T'assure, j'ai vraiment pas besoin de comprendre l'espagnol.
Bon,
pour comprendre qu'on était en travers.
Il y en a un qui parle pas espagnol, Jean-Michel. Ouais, on était de travers, mais qui parle italien, couramment. C'est Benoît Costil.
Salut Ben.
Salut Benoît. Ah, on essaie de parler football plutôt que parler espagnol ou italien.
Kenavo.
Breton aussi, ouais, bien sûr.
Non, pas encore, mais on profite de cette région fantastique, effectivement. Jérôme le sait.
Ouais, très belle région.
Grand Rotten sans flamme,
ça vous gagne.
C'est l'avant-dernier de la saison. On est toujours en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de Paris. Et on va revenir sur cette magnifique.
C'est vraiment une grande excitation.
C'est un peu retombé avec l'élimination de l'équipe de France.
Il n'y a plus un maillot.
Vous venez assister malgré tout à l'émission si ça vous intéresse. On va revenir donc sur cette magnifique demi-finale de Coupe du Monde hier soir. Est-ce que le parcours de l'Argentine est fascinant? 32-16 à 19h pour en débattre avec nous, je vous l'ai dit. Certains ont retourné leur veste. Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet. Ça y est, sont devenus fans de l'équipe argentine. Donc on pourra en parler.
Leur veste.
Ah ouais, ça y est.
Pourquoi retourner leur
veste? Parce que ça y est, vous oubliez ce qu'ils nous ont fait, les Argentins.
Qu'est-ce que tu me racontes?
Vous avez vu deux buts comme ça dans les 5 dernières minutes. Ça y est, vous êtes des supporters de l'Albi-Céleste.
C'est incroyable. Comme
on n'a pas parlé une seule minute de l'Argentine depuis le début de la compétition. Il connaît notre avis sur l'Argentine.
Je sais ce que vous pensez.
On appelle ça, c'est faire les questions et les réponses, Benoît.
Non, je sais très bien ce que tu penses.
C'est comme tu veux.
Je sais très bien ce que tu penses. Je t'ai parlé un peu.
Non, parce que je ne te l'ai jamais dit et je vais te dire ce que je pense. Oui,
j'ai hâte alors. J'ai hâte. À 19h30, d'ailleurs, autre débat autour de cette demi-finale. Est-ce que Thomas Tuchel a causé la perte des Anglais, ce coaching ultra-défensif? Est-ce que c'était vraiment pertinent 1-0 de sortir
Tuchel, c'est ça.
Le génie, ouais, exactement.
Non, mais bon, on l'avait placé quand même tellement haut.
C'est vrai. Il fait mieux que Southgate, finalement.
Ouais. Elle était bien inspirée.
Il est bien, il est bon.
Les Anglais trouvaient que Southgate puait la loose.
je pense que là, on n'est pas loin. Ouais. Et puis la merde.
C'est carton jaune. Non, ça c'est
pardon.
Ça c'est long. Et puis à 18h30,
les shorts blancs n'étaient pas totalement blancs à la 48e.
Il y avait des traces de pneus. Voilà.
Allez, sur ces belles paroles, je vous annonce le reste du programme parce qu'à 18h30, on va ouvrir le procès d'Ousmane Dembélé qui n'a pas réussi sa Coupe du Monde. Rassurez-vous, le Ballon d'Or sera défendu dans cette émission. Dans ce procès, donc dans une trentaine de minutes. Et puis à 18h45, on va parler de ce match pour la troisième place, samedi 23h France-Angleterre, avec un spécialiste. Bruno Bellon sera avec nous. Il a joué deux matchs pour la troisième place, en 82 et en 86. Il va nous dire ce que ça fait. Et comment ça se passe.
Incroyable, quelque chose.
Meilleur que le tien, non?
Je m'incline avec Bruno Bellon.
C'est vrai?
Je m'incline.
C'est beau ça.
Je m'incline. Et moi, j'étais
quel moment nous vivons là?
Ouais, c'est clair.
Benoît, tu le sais, par rapport au respect que t'as pour moi, toi, je t'ai montré les choses quand t'étais gamin.
Fallait que tu redeviennes toi-même.
Et ben, forcément, toi aussi, t'as des inspirations. Moi, j'en ai eu. Et Bruno Bellone en a fait partie. Bon, pied gauche incroyable.
Et ben, il sera avec nous à 18h40.
Le piqué, rappelez-vous, le piqué en finale de l'Euro.
Ah, bah oui. Ça, c'est
au Parc des Princes.
Bravo, Bruno.
J'ai pas les cassettes.
Tu te souviens pas de ça? Non mais arrête. Allez, Jean-Michel, tu te rends compte?
Va vite sur les plateformes et va regarder.
C'est vieux, ça. Ah oui, ancien,
c'est ça les jeunes qui s'imaginent que le football n'existait pas avant eux. C'est ça.
C'est clair. Il existe depuis 2004.
Ouais. Allez, 18h06 sur RMC, tout de suite. Ah, finalement, il va nous manquer ce Dédé.
Pour les Allemands.
L'objectif numéro 1, c'est l'équipe de France et ce que représente l'équipe de France. On va tout faire pour les écraser, mais c'est dans un sens de motivation.
Mbappé, la frappe roulée. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie.
Toujours prudence, méfiance.
Arrêt de sauveur. C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée de l'Euro 2020.
Bon, au moins, je prends des décisions qui peuvent faire plaisir. Malheureusement.
La course de Montiel. À contre-pied, c'est fini.
C'est pas quelque chose d'anonaire.
C'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon.
T'as prévu de prendre les 3 points et puis patatrac.
C'est plus une pression là, je suis déjà au pilotique.
Oh, oui. RMC intégrale Coupe du Monde.
Ah oui, tu vas nous manquer.
Tu vas me manquer.
Cette sortie au goût amer pour Didier Deschamps.
Didier.
Le dernier match de sa longue carrière de sélectionneur, samedi 23h face à l'Angleterre. Le match pour la 3e place. C'est la fin d'une aventure de 14 années à la tête des Bleus. Un titre de champion du monde, 2 finales majeures, Coupe du Monde 2022 et Euro 2016. Parlons-en avec un de nos envoyés spéciaux au plus près de l'équipe de France. C'est Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut les amis, bonjour à tous.
Salut Val. Bon, Valentin, salut. Tu nous as dressé le bilan chiffré des années de sélectionneur de Didier Deschamps.
Tout à fait. Deschamps va partir déjà avec 2 titres à la tête des Bleus. Le titre majeur, bien sûr, c'est la Coupe du Monde 2018, la 2e étoile de l'histoire des Bleus. Et il a aussi une Ligue des Nations en 2021. C'était l'époque, bien sûr, l'époque Benzema, Mbappé, Griezmann, notamment en attaque, et Benoît Costil. Deschamps, c'est aussi la régularité dans les grandes compétitions. 3 finales disputées, 2 en Coupe du Monde, 1 à l'Euro perdu, mais aussi des demi-finales à l'Euro 2024, à la Coupe du Monde cette année. Les deux perdus contre l'Espagne, qui aura d'ailleurs été l'équipe qui a le plus souvent battu le sélectionneur français pendant son mandat. L'échec principal, c'est l'élimination contre la Suisse en 8e de finale à l'Euro en 2021. Mais sinon, Deschamps a des chiffres impressionnants. Il accumule les records. C'est le sélectionneur le plus capé et le plus victorieux de l'histoire des Bleus. 186 matchs, 122 victoires. Le plus capé, le plus victorieux aussi dans l'histoire de la Coupe du Monde, tout pays confondu. Et puis, ils ne sont que 3 à avoir gagné la Coupe du Monde, et comme joueur et comme coach. Donc, voilà, une grande carrière après ces 14 ans de mandat pour Didier Deschamps.
Ouais, merci Valentin, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Est-ce que le bilan de Deschamps à la tête des Bleus est exceptionnel? On vous attend au 32-16. Est-ce que tu le juges exceptionnel, ce bilan, Jérôme?
Non, exceptionnel, le mot est trop fort. Pas exceptionnel. Et pourquoi? Et je m'explique. Pourquoi? Parce que pour moi, il est resté trop longtemps pour que ce bilan soit exceptionnel. S'il avait mis fin à ce bilan au bout de 10 ans, déjà 10 ans, c'est long, mais qu'est-ce que c'est long, 10 ans à la tête de l'équipe de France. Je pense que toutes les critiques qui sont pour moi certaines injustifiées, surtout sur son premier mandat, on va dire sur les 6 premières années à la tête des Bleus, le travail a été monstrueux. Si c'était arrêté en 2018, allez, je vais te dire, même jusqu'en 2020 ou 2021, parce qu'il y a eu le Covid, donc ça a été décalé d'un an.
On perd en 8e de l'Euro. Là.
Le bilan aurait été exceptionnel. Parce que tu as le droit de tromper sur une compétition, ça a été le cas, que ça soit lui ou les joueurs contre la Suisse. Rappelle-toi de l'ambiance à cet Euro-là, c'était pas génial, vraiment. Et je pense que Didier en est aussi responsable. Il a laissé... Il a mal géré le retour de Karim Benzema avec l'entente avec certains des anciens qui ont été champions du monde en 2018. Je pense que ça a créé des tensions dans le groupe. C'est pas que je pense. Il y a eu l'émergence de certains jeunes et aussi les statuts de certains jeunes, Kylian Mbappé en a fait partie aussi, qui ont pas forcément été acceptés à leur juste valeur. Donc ça a créé des tensions. Mais pour revenir juste sur Didier, sur ces allez 8 premières années, franchement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire. S'il y a quelqu'un qui est critique sur ce qu'il a apporté à l'équipe de France, bah c'est parce que c'est un délit de sale gueule et ils veulent juste se faire Didier Deschamps. Mais là, on n'est plus objectif dans ces cas-là. Moi, l'objectivité, je l'ai sur le fait que
tu peux mettre des bémols.
Non, mais j'ai pas Alzheimer. Je me souviens juste que en 2012, l'équipe de France, elle était dans une certaine position. Rappelle-toi, c'était Laurent Blanc qui avait pris une équipe, mais au ras des pâquerettes, avec le génie Raymond Domenech, qui l'a détruit en l'espace de 6 ans. Et je sais, parce que j'en ai fait partie aussi, heureusement au tout début, pas à la fin, de cette équipe de France. Et je sais tout le mal qu'il a pu faire pour ce blason. Tu vois, Laurent Blanc, il a fait ce qu'il pouvait, mais c'était pas non plus génial. Lui, Didier, est arrivé en 2012. C'était le choix du président de la Fédé, Noël Le Graët, à l'époque. Et il savait qu'en confiant les clés du camion à Didier Deschamps, avec tout le respect qu'il a pour l'équipe de France, ce côté patriote, ce côté passionné de football, grand connaisseur de foot, en ayant gagné beaucoup de choses en tant que joueur, mais surtout en tant qu'entraîneur, parce que c'est là-dessus qu'on le juge. La carrière de joueur, là, Valentin nous faisait référence. Oui, c'est un des trois. Ils sont que trois à avoir gagné en tant que joueur et sélectionneur. Ça, on en a rien à faire, en fait. Ça, c'est pour moi, c'est pas. Non, mais c'est pas un record. Mais non, mais parce que tu peux être un grand joueur et être un mauvais entraîneur. L'entraîneur est de grande qualité, Didier Deschamps. Partout où il est passé, il a apporté cette rage de vaincre, cet état d'esprit de compétiteur, et surtout, il a gagné. Donc ça fait de lui un des meilleurs.
Il a gagné qu'une fois.
Oui, mais sauf que et je vais donner la parole à Benoît et à Jean-Michel, mais juste pour te parler de allez, on va aller jusqu'à même 10 ans. Les 10 premières années pour moi, c'est totale réussite. Roderoy le blason, d'où elle venait, les résultats, ils sont montés crescendo et on a fini en 2018 par être champion du monde. On aurait pu être champion d'Europe en 2016 à domicile avec toute la pression que ça comporte. C'est pas facile. On a perdu sur un coup du sort, sur un poteau qui a longé la ligne et puis une frappe d'Eder qu'on n'a pas revu derrière. Tant pis, on l'a perdu, mais on a été en finale quand même. Donc si tu veux, sportivement, il a redoré le blason, il a apporté tellement de plus à cette équipe de France qu'elle a été respectée de tout le monde. On est devenu, avec Didier Deschamps, en l'espace de 6-7 ans, la meilleure équipe du monde. Donc c'est comme ça. Après, quant à ce statut-là, ouais, une des meilleures. Quant à ce statut-là, et on partait de loin encore une fois quand il l'a récupéré, bien sûr que ça t'apporte beaucoup plus de pression, parce que là, on se satisfait plus d'une demi-finale, d'un échec contre la Suisse, de perdre en finale, c'est différent parce que en 2022 on se souvient comment on a perdu et de quelle façon. Mais 2024 et 2026 pour moi c'est les années trop et c'est là que arrive beaucoup plus de négatifs malheureusement parce que pour moi il a perdu le mojo, il a perdu le mojo de son état d'esprit de compétiteur hors pair. Pour moi, il a écouté un peu plus ses joueurs. Et là, je refinirai tout à l'heure là-dessus. Je donne la parole à Jean-Michel et Benoît. Mais je voudrais parler aussi de ces leaders de vestiaire, leaders de terrain. Pour moi, depuis 4-5 ans, il s'est planté.
Ok. Jean-Michel, est-ce que tu juges le bilan de Deschamps exceptionnel ?
Exceptionnel par rapport à qui ? Par rapport à quoi ?
Bah, par rapport à tous les autres sélectionneurs et puis par rapport même à ce qui se fait dans le monde.
Mais tu réponds. Non, mais ne t'énerve pas.
Pas qu'en France, hein, Jean-Michel.
Ne t'énerve pas, je te posais simplement la question. Tu sais qu'il y a une règle quand on fait des statistiques, c'est que quand pour faire une comparaison, il faut que les choses soient exactement les mêmes au même moment, aux mêmes dates, avec les mêmes adversaires, avec ceci, cela. Le football de Didier Deschamps n'est pas le football de 58 lorsqu'on a eu une première embellie en Coupe du Monde, n'est même pas celui de Aimé Jacquet en 98. Aujourd'hui, le football, les comparaisons, c'est pas possible de les faire. C'est par, tout simplement parce que auparavant, pour te qualifier pour une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, tu n'étais pas forcément tête de série. Ça n'existait pas, les têtes de série. Donc tu pouvais être dans une poule extrêmement compliquée d'entrée. Il y avait moins de qualifiés. Aujourd'hui, il y en a 48 pour la Coupe du Monde. Pour ne pas se qualifier pour un pays d'Europe occidentale, il faut faire exprès. Je te signale, par exemple, que en 78, le groupe de la France en Argentine, est-ce que tu te rends compte? Et je vais te citer un pays dont vous vous souvenez pas, mais qui a eu des joueurs exceptionnels, qui était la Hongrie. Il y avait donc la Hongrie, il y avait l'Italie, et il y avait l'Argentine et la France. Si aujourd'hui tu tombes dans un groupe où il y a au départ l'Argentine, l'Italie, la Hongrie et la France, et puis que tu n'as qu'un qualifié pour la suite de la compétition, je t'assure, Benoît, les statistiques vont pas être les mêmes. Hein.
Oui, exactement.
Les stats vont pas être les mêmes. Donc,
mais si je vais dans ton sens, c'est pas exceptionnel alors.
Cela mis à part, oui, c'est exceptionnel parce que tu le retrouves quand même toujours au bout du compte. Je regardais alors, dans le pour arriver en demi-finale de cette Coupe du Monde, l'équipe de France a battu deux pays qui étaient dans le top 20 de la FIFA. Le Sénégal, qui doit être 15e et qui est arrivé en mauvaise santé. Et le Maroc, on sait très bien dans quelle situation sont arrivés les Marocains sans leur meilleur attaquant.
Qui ressemblait plus à une équipe de 40e au classement.
Donc, si tu veux, je ne veux rien dénigrer. Les résultats sont là. Il a amené l'équipe de France d'une manière régulière au plus haut niveau. Après, il y a ceux qui sont optimistes, il y a ceux qui sont pessimistes, ceux qui sont optimistes en disant bah, l'équipe de France est à un rang qui n'est même pas le sien tellement il est haut par rapport à ce qu'est le football local, le football national. C'est au-dessus de nos performances. Et puis il y en a d'autres qui te diront on a quand même manqué des occasions d'être nettement meilleur. En étant sur certains matchs nettement nul. Vous évoquiez la finale de l'Euro contre le Portugal. Je veux bien qu'il y ait des matchs, mais on n'a pas fait un bon match, les gars, contre le Portugal. On est bien d'accord.
Ah oui, l'Euro. Oui, d'accord.
Pendant 80 minutes, on a été bon lors de la finale contre l'Argentine.
Non. Est-ce qu'on a été bon à l'Euro 2024? Non.
Non, mais je te parle des derniers matchs.
Ça, c'est un vrai bémol.
Je te parle des dernières marches. Je n'enlève rien. On est au sommet du football mondial et Didier Deschamps a une immense part de réussite et de responsabilité là-dessus. Mais à la dernière impression sur laquelle on restera, est-ce qu'on a disputé notre chance normalement, on y reviendra, contre l'Espagne? Est-ce qu'on a été battu malheureux parce qu'on a été malheureux ou est-ce qu'on a été battu parce qu'on a été nul? La dernière demi-finale.
Parce qu'on s'est loupé.
Voilà.
Et que l'Espagne était très forte.
Donc si tu veux, je te prends trois matchs. Trois des matchs les plus importants avec la finale contre la Croatie. Et sur ces quatre matchs, je t'en prends trois importants où l'équipe de France s'est pris les pieds dans le tapis.
Donc c'est exceptionnel, mais pas terrible. Bravo Jean-Michel.
Et non, c'est pas ça fin, que je dis. Je veux simplement te dire. Et ça, je pense que ce n'est pas dû essentiellement à Didier Deschamps. On en reparlera peut-être avec le comportement des Argentins. Je pense que notre football, dans sa formation, manque de quelque chose. Ce quelque chose qui fait que les matchs difficiles, les matchs couperés, quand tu as un adversaire compliqué, eh bien, tu peux pas les perdre trois fois sur quatre. Oui, tu les perds trois fois sur quatre. C'est voilà. Alors... voilà mon idée. Après, je souhaite bonne chance aux successeurs de Didier Deschamps. Je ne sais pas comment ça se passera. Je vous dis simplement que par rapport aux autres, Ah, je vais mettre Mémé parce qu'en plus, lui, il venait de, il a récupéré un groupe qui était à la,
qui était à l'agonie,
à la cave, hein, à la cave complète. Bon, mais évidemment, Aimé Jacquet, Didier Deschamps, évidemment que ce sont deux sélectionneurs exceptionnels.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, Benoît? Est-ce qu'il est exceptionnel le bilan de Deschamps?
Bah, s'il n'est pas exceptionnel, on s'en rapproche quand même. Moi, j'ai pas envie d'oublier quand même comment il récupère l'équipe de France en 2012. L'opinion publique qui est autour de cette équipe de France qui est exécrable. Voilà, et puis même, je suis pas, je vous trouve dur en fait, Jérôme, même Jean-Michel, même si à la fin Jean-Michel est plus tendre à l'égard du bilan du sélectionneur. Mais quand Jérôme il parle des dix premières années, qui fait quatre années en trop entre guillemets, mais malgré tout dans ces quatre années tu fais finale et deux demi-finales. Et Jean-Michel le dit, tu n'es pas la meilleure équipe du monde, tu fais partie des meilleures équipes. Et tu te bats avec d'autres nations aussi qui veulent les mêmes titres que toi.
T'as un potentiel exceptionnel.
T'as un potentiel exceptionnel. La remarque, c'est que je ferais moins plus. C'est plus sur le fond de jeu, en fait. On n'a pas vu grand-chose sur le fond de jeu. Et sur le match de l'Espagne, ce que tu constates, c'est que, par exemple, c'est un fond de jeu collectif, c'est une idée de jeu collectif qui fait la différence que toi, tu n'as pas. Et toi, tu dépends de tes quatre fantastiques et ton talent offensif. Quand eux, ils sont moins bien, t'es plus en difficulté. Malgré tout, si on juge le résultat.
Je te dis qu'il a perdu le mojo.
Ouais, mais si tu regardes le résultat pur, son bilan, il est archi positif. Et je souhaite bon courage au futur sélectionneur.
Mais il peut pas être archi positif.
Pour moi, il est positif. Pour moi, il est positif en termes de résultats.
Non, mais quand t'es première nation.
Mais tu peux pas tout gagner du tout. Tu peux pas tout gagner non plus.
Non, mais, Benoît, c'est très simple, c'est factuel. T'es première nation FIFA, même deuxième, parce que certainement que si l'Argentine gagne, ils vont être premiers et nous, on passera deuxième. Donc, t'es première nation FIFA.
Ça fait que t'es la meilleure équipe du monde.
Donc ça veut dire que si tu gagnes pas les compétitions, au moins tu vas pas en finale, t'as échoué. Dans n'importe quel autre sport, ça sera la réalité.
Mais Jérôme, cette Coupe du Monde, ouais, je suis d'accord, mais sur cette Coupe du Monde là, je suis le premier à te dire, pour moi c'est un échec. Et quand tu écoutes Kylian Mbappé, il te dit lui aussi que c'est un échec. Il le dit deux fois dans une interview que c'est un échec. Malgré tout, le bilan de la fin de cette Coupe du Monde, si tu gères bien ta 3-4e place, ce fameux match cacahuète, comme tu dis, pour moi, je m'en fous pas. Et je pourrais pas tirer sur l'ambiance.
Si on écrase les Anglais 4-0, toi, ça va effacer la leçon qu'on a pris
J'aurais une frustration. Parce que cette équipe a le talent pour aller au bout. Malgré tout, pour moi, le bilan sera pas négatif.
C'est là que moi je suis pas d'accord avec toi et dans certaines analyses, le talent individuel, bien sûr qu'on l'a. Moi, je vais pas remettre en doute le talent individuel des joueurs. Mais connaissant Didier Deschamps, et c'est là que je dis que son bilan, malheureusement, il est plus exceptionnel à cause de ces quatre dernières années. C'est que pour moi, il a perdu ce qui faisait sa force, c'est-à-dire construire un collectif qui est très dur, pas de jouer de la façon des Espagnols, c'est pas ce que je demande, et de toute façon on le fera jamais parce qu'on n'est pas formé comme ça, on n'est pas formaté comme ça. Mais par contre, une équipe qui est très dure à jouer, qui est dans l'impact, dans le bloc défensif, dans l'équilibre, qui va contrarier des équipes qui essayent de faire le jeu.
Et après, avec toi, Jérôme, on était les premiers à lui dire qu'il manquait de talent offensif.
Non, mais attention. Je te dis pas le contraire. Sauf que on était les premiers. Moi, je suis depuis 4 ans, en effet, un peu plus axé sur la façon d'évoluer, comme tu le dis, le fameux fond de jeu qui doit être meilleur pour que le spectacle soit meilleur. Et pas voir une équipe de France avec tous les talents qu'on a d'un point de vue offensif, une équipe de France qui subit et qui contre son adversaire. Moi, j'aurais aimé que ça change. Mais malheureusement, c'est ce que je pense maintenant avec encore plus de recul, mais je le disais déjà en 2022, pour avoir ce profil d'équipe-là, il fallait changer de sélectionneur. Parce que en plus de ça, contrairement à d'autres entraîneurs, rester, et tu le sais très bien, Benoît, comme Jean-Michel, rester déjà 8 ans à la tête d'une sélection. C'est normal que, en fait, au d'un moment, il y a même un délit de sale gueule qui se met en place. T'as beau l'aimer, Didier Deschamps.
C'est humain.
Mais c'est humain. Au bout de 10 ans, au bout de 12 ans, au bout de 14 ans.
Tu dis ça, mais je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que maintenant, j'ai hâte aussi d'avoir un nouveau sélectionneur pour voir ce qu'il va proposer. Et une de ses missions, c'est quoi? Le fond de jeu.
Salut Laurent.
Ah oui. Salut Lolo.
Bonjour.
Salut Laurent, bienvenue dans Antenne sans flamme.
Ouais, salut messieurs, ça va bien, ouais.
Bon, est-ce qu'il est exceptionnel le bilan de Deschamps?
Pour moi, il n'est pas exceptionnel le bilan de Deschamps. On a une Coupe du Monde comme Jacquet, et puis après on a une Coupe aux Cacahuètes et la Ligue des Nations. Et comme vous dites, effectivement, on n'a pas eu de. Quand on a joué contre des équipes qui jouent au ballon, comme l'Espagne, eh bien, on n'a pas été capable de les contrer et de les et de mettre en place un système par rapport à ça. Et à chaque fois qu'on a joué contre des équipes, même la finale contre l'Argentine, 3-0 à la 80e, eh bien, merci Mbappé, on y envoie des ballons devant, et pour Forest, et puis Marc, quoi. C'est le jeu de Deschamps. Et là, cette année, il a voulu changer de système, et malheureusement, il n'a pas été au bout, sur le seul match aussi qu'on avait une équipe qui avait du ballon, quoi.
Non, puis en plus, Laurent, pour insister là-dessus, parce qu'on a beaucoup parlé de ce changement de système, ces quatre offensifs, où il s'était renié ou quoi que ce soit. Moi, j'y crois pas, ça. Parce que Didier, le connaissant assez, il a des principes de jeu qui sont les mêmes depuis 25 ans. Il sait que entraîner une équipe d'une certaine façon va lui apporter plus de chances de gagner des matchs. Et c'est là que moi, en fait, quand je dis qu'il a perdu le mojo, c'est dans son management, pas dans sa communication, parce qu'on n'en a rien à faire, il a toujours fait de la langue de bois de toute façon, donc on saura jamais. Quand il te dit un truc, moi, franchement, faut rester vigilant.
Et il refuse d'analyser les
échecs. Pas forcément ce qu'il dit dans le vestiaire. Moi, je ne crois pas une seule seconde quand hier il y a nos journalistes, nos correspondants qui font un très bon boulot, disent c'est les joueurs qui ont voulu jouer comme ça, qu'on lui a imposé. Non. Didier, s'il pense que d'une certaine façon, on va t'imposer de jouer et que t'as de grandes chances de pas gagner, il ne le fait pas. Faire quatre joueurs offensifs contre des équipes très moyennes, tu peux le faire. Je pense que n'importe quel sélectionneur, il faut pas, même toi, Laurent, si t'avais été sélectionneur, t'aurais mis les quatre joueurs offensifs. Tu te dis, mais écoute, de toute façon, on va pas être inquiété contre l'Irak, contre la Norvège B, contre la Suède, contre le Maroc à ce niveau-là. Je suis désolé, mais encore une fois, je remets une couche aux Marocains, mais ils ont été mauvais. De chez mauvais sur ce match.
Handicapé aussi.
Et ensuite, quand le niveau s'élève. Non mais quand le niveau s'élève, c'est de reprendre le mojo comme il l'a toujours fait et d'analyser la bonne situation.
Juste les gars, j'entends bien que nous sommes, certains ont dit que c'était la meilleure équipe du monde. Attendez, on va quand même regarder un peu les résultats. Notre dernier adversaire, il nous a battu cette fois-ci. Il nous a battu l'avant-dernière fois. Il nous a battu l'antépénultième fois. Donc, à un moment donné, comme si tu me dis que Vingegaard, il est pas loin de Pogacar, mais il est toujours derrière.
Voilà. Merci à Laurent, qui est venu au 32-16.
Je veux bien, mais à un moment ou un autre, regardons la réalité. Est-ce que les trois derniers matchs contre l'Espagne, non seulement
on n'a pas existé,
et le dernier, on n'existe pas.
Le dernier, c'est le pire. Ouais.
Voilà.
Exactement.
Donc,
c'est pour ça que vous êtes d'accord avec moi, Jean-Michel et Benoît, parce que là, vous faites semblant de pas être d'accord, mais que pour moi, les quatre dernières années, je répète, après la Coupe du Monde 2022, c'est quatre années de trop.
18h28 sur RMC, Roten sans flamme avec Jérôme Roten, Benoît Costil, Jean-Michel Larquet dans un instant. Ouais. Le procès d'Ousmane Dembélé qui n'a pas réussi sa Coupe du Monde.
Et Ousmane Ballon d'Or.
RMC, 18h20, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Dembélé dans la surface de réparation, il faut provoquer, il faut essayer de frapper. Dembélé encore une fois, la frappe de Dembélé! Et le but!
Oh, le mec, il est en feu!
Il est en feu! Ce soir, le triplé d'Ousmane Dembélé, c'est le match du Ballon d'Or! Il est énorme, il est gigantesque!
Benoît Boutron, Jérôme Rossi.
18h33 sur RMC, la deuxième demi-heure, c'est maintenant avec Jean-Michel Larquet, avec Benoît Costil et avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h, on finit cette année fantastique, bien remplie. Oui, on s'est régalé sur cette Coupe du Monde tous les jours ici au Flora depuis le 11 juin.
Ouais.
Brasserie parisienne dans le 9e arrondissement.
On les remercie d'ailleurs.
On leur accueille, c'était fantastique. Et puis ils peuvent nous remercier aussi parce que là, ils ont fait chiffre x10. Hein. Donc bravo Flora. En tout cas, nous on continue.
Vous êtes nombreux à nous écouter.
Bah, quand t'es pas là, non. Quand t'es là, c'est différent.
C'est vrai que c'est pas les mêmes soirées, Benoît, quand t'es sur Paris.
J'ai telle sagesse.
C'est toi qui peux augmenter le chiffre d'affaires. C'est ça,
pas là-bas, non. Pas là-bas.
À 18h45, allô Jérôme, on sera avec Bruno Bellone. Et oui, celui qui a disputé deux matchs pour la troisième place en Coupe du Monde en 82 et en 86.
Ah ouais.
On avait perdu contre qui en 82?
82?
Ouais.
Bah, on perd contre. C'était Italie.
Ah ouais, tu t'en rappelles, c'était
non, non, mais pas 82. 82, beaucoup moins que 86.
Pays européen.
Allemagne.
La Pologne.
Et en 86, par contre, je m'en souviens bien.
T'as battu la Belgique.
Ouais, la Belgique.
Tout à fait.
4-3.
Voilà. Tout à fait. Bruno Bellone avec nous.
Albert Rust.
Et avec une prolongation en match pour la troisième place, t'imagines? Ça, c'est terrible.
Avec Bébé Russe, ouais. Allez, tout de suite dans les buts.
Parlons d'Ousmane Dembélé.
RMC, Rotten sans flamme.
Question que j'ai envie de vous poser, parce que vous savez presque tout faire déjà, mais vous êtes droitier ou gaucher?
Gaucher.
Sûr, parce que vous marquez aussi le droit.
Ouais, je suis plus gaucher.
Et les pénaltys, vous ne les tirez pas du droit?
Si.
Pourquoi?
parce que je tire mieux du droit.
Le procès de Rotten sans flamme.
Excellent, Ousmane Dembélé.
Moi, je l'aurais dit, mais parce que je suis droitier. Non, mais
souviens-toi, Jérôme, il l'avait dit dans Rotten sans flamme fin mai. Il rêvait d'enfin réaliser une grande compétition internationale avec l'équipe de France. On rappelle que Dembélé est le sixième joueur français à décrocher un ballon d'or. C'était en septembre dernier. Il est double vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG. Le bilan de sa Coupe du Monde, 5 buts marqués, dont un triplé face à la Norvège, c'était le troisième match de poule, et 2 passes décisives. Rappelons également qu'il a été désaxé dès la mi-temps du match face au Sénégal, c'est le premier match des Bleus, et directement positionné sur l'aile droite. Beaucoup de déchets et surtout un très mauvais match pour finir contre l'Espagne. On va donc faire le procès ce soir de Dembélé qui n'a pas réussi sa Coupe du Monde. Et figure-toi, Jérôme, que tu es le seul procureur. Mmh. Donc Jérôme Rotten va l'attaquer. Bonsoir.
Ouais, bonsoir.
Deux avocats pour bonsoir. Dembélé, Jean-Michel Larquet, bonsoir.
Bonsoir.
Et Benoît Costil, bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est Mathieu qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Mathieu.
Salut.
Salut Mathieu.
Bienvenue Mathieu. Les supporters d'où, Mathieu?
Des supporters d'où d'ailleurs?
Et les supporters du PSG.
Ah, bien sûr. Bon, tu pars de loin, Jérôme.
Bon, courage, non, mais j'ai gagné, alors.
Bon courage, Jérôme. Bon
gagné,
courage.
Ben, j'ai gagné. Et ben, je vais t'expliquer.
Déjà, Jérôme, est-ce que tu es surpris d'être le seul procureur?
Oui, mais bon, surpris en quelque sorte. Ça veut dire que je ressens pas le football de la même façon que Benoît et Jean-Michel. Est-ce que c'est grave?
Donc,
moi, ce qui est sûr, c'est que Ousmane a tellement mis la barre haute avec le Paris Saint-Germain. Que forcément quand tu mets la barre haute, mais un peu à l'image de l'équipe de France, quand on réclame que l'équipe de France gagne la Coupe du Monde ou aille en finale de la Coupe du Monde, ils sont allés se chercher ce statut-là. Donc on leur a pas donné d'un seul coup comme ça. Oh bah tiens, c'est Deschamps qui entraîne avec Dembélé, avec Mbappé, avec Olise, avec Doué, avec Barcola, avec vous avez vu, j'ai pas cité Tchouaméni et Koundé.
Ouais.
N'empêche que on leur donne pas le statut comme ça. Ils sont allés le chercher par rapport aux derniers résultats et aux dernières grandes compétitions. Une fois que t'as dit ça sur Ousmane, bien sûr que c'est pas le même maillot, c'est pas la même pression, c'est pas la même attente de la part de son entraîneur, de sélectionneur, c'est pas les mêmes coéquipiers, quoique il y en a beaucoup avec qui il joue aussi en club. Quand tu parles de certains joueurs autour, je pense que c'est pas problématique de jouer avec ces joueurs-là ou trouver ses repères. Mais la seule chose à constater, et on l'a très souvent avec Ousmane, avec l'équipe de France, c'est que pour moi, son statut, il a évolué sur les deux dernières années. Il est Ballon d'Or. Et Ballon d'Or, ça mérite beaucoup plus de respect
de
déjà.
Considération.
De considération, de respect de la part du sélectionneur ou même de la part de l'encadrement et des joueurs.
C'est pour ça qu'il
l'a et que pour moi, en effet, le fait qu'il fasse des matchs très moyen pour moi par rapport au match qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, ça me surprend parce que il est pas totalement responsable de tout, mais il est aussi responsable, si tu veux, quand il touche le ballon et quand il fait des actions décisives comme il peut faire très souvent avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'avec le Paris Saint-Germain, il marque beaucoup de buts, ok,
ouais.
Mais il fait pas que ça. Il fait pas que ça. Bah c'est un mec qui a beaucoup de liberté dans le jeu. On aime bien ce terme-là, liberté, mais en équipe de France, et lui-même nous le disait, cette liberté-là, avec Didier Deschamps, il l'a aussi avec Olise qui passe à droite, lui dans l'axe, Mbappé qui peut aller à gauche. Il nous en a parlé, donc on est bien placé pour mettre ça en avant. Et en effet, quand je vois le bilan de tous les matchs, et surtout les matchs qui comptent, parce que moi, marquer 3 buts, c'est une performance. Tu marques 3 buts contre la Norvège, je vais pas te dire que c'est, il faut pas minimiser ça. Et moi, j'ai mis un but en équipe de France. Alors, je vais pas dire que le mec qui en un match met trois buts, c'est pas fantastique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'était pas un match qui comptait plus que ça. Les matchs qui comptent. Ouais. Écoute, c'est les premiers matchs, tu l'as dit, contre le Sénégal, l'entrée dans la compétition, très compliquée de sa part. Changement de position. Donc, ça veut dire le statut. Bah, écoute, t'es pas comme vraiment le joueur phare. Ensuite, derrière, il y a le match du Maroc. Il y a le match de la Suède déjà, le match du Maroc et le match contre l'Espagne. Excusez-moi, mais si vous me dites que parce qu'il a marqué un but dans ces matchs-là, que la saison, la Coupe du Monde est réussie, mais moi quand je vois les derniers matchs de Ousmane, je me dis en effet. Il aurait dû mieux faire. Alors, car les erreurs techniques, les fautes techniques d'Ousmane, il doit faire beaucoup mieux.
Vas-y Jean-Michel, comment tu vas le défendre ?
Ah ben je vais le défendre. D'abord, j'avais émis lors des matchs de préparation où il était 9,5, numéro 10, une question en me disant que je trouvais anormal que notre ballon d'or ne soit pas utilisé.
Sacrifié, c'est-à-dire.
Ouais. Peut-être sacrifié. D'ailleurs, il y avait des ballons d'or dans cette compétition qui ont réussi plus ou moins, mais les entraîneurs l'entraîneur qui a fait jouer Cristiano Ronaldo, il l'a bien fait jouer à son poste. Celui qui a fait jouer Lionel Messi, il l'a bien fait jouer à son poste. Celui qui a fait jouer Luka Modric, et en plus, ce sont quand même des ballons d'or qui sont plutôt sur la fin que sur les. Ils ont tous joué à leur poste. Bon, il se trouve aussi. Et Rodri également, oui, je l'avais oublié celui-là. Donc, et Ousmane Dembélé a été dans un premier temps numéro 10, et puis on a repositionné. Et je m'excuse, mais peut-être que Dembélé est en partie responsable, mais le repositionnement de Dembélé a entraîné le repositionnement de Olise, qui a entraîné le repositionnement de Doué. On est bien d'accord ou on n'est pas d'accord sur ce que j'ai dit ?
On est
d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, force est de constater que il y a 3 ans, lorsque Dembélé jouait sur le côté droit au Paris Saint-Germain, et notre supporter du Paris Saint-Germain va s'en rappeler, il y a eu des questions sur Dembélé, notamment sur son efficacité. Et puis un jour,
mais son efficacité,
Luis Enrique a eu la bonne idée de le mettre en pointe après avoir tâtonné un petit peu lors de certains matchs. Et non seulement il a été bon, il a été très bon, il a marqué des buts et il a été ballon d'or. Donc je veux bien, moi, qu'à un moment ou un autre...
Oui, mais à droite, il n'était pas effacé pour autant, hein, Jean-Michel, hein, je te rassure.
Ah, je peux te dire...
On peut prendre
des débats d'il y a 3-4 ans sur le Paris Saint-Germain.
Oui, d'accord, mais il n'était pas effacé comme ça.
Je peux te dire que la première chose que l'on signalait et que l'on soulignait...
Oui, c'était son manque d'efficacité.
Entre le nombre d'occasions qu'il se procurait et le nombre de buts, il y avait quand même...
Mais il faisait des différences quand même et il apportait à l'équipe.
Allez. Et va revenir au Paris Saint-Germain, va revenir avant-centre et va remarquer des buts et sera à nouveau bon.
Et ça annonce la troisième étoile.
Benoît, toi aussi tu veux le défendre, Dembélé.
Ouais, je veux le défendre parce que à juste titre, on lui a reproché son manque d'efficacité ou certaines prestations de l'équipe de France. Et là, je vous rejoins, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais sur cette Coupe du Monde, c'est la compétition où il était le plus prolifique. Alors certes, le premier match du Sénégal, il laisse à désirer. Il y a ce replacement tactique où il part à droite. Mais suite à ça, je trouve qu'il fait ses matchs. Il marque des buts, il fait des assists. Et après, sur le dernier match de l'Espagne, il a été en dessous, mais c'est collectivement, tous ensemble, qu'ils ont été en dessous.
Ah bah oui, mais il y en a bien qui sont responsables.
Tu vois, mais c'est collectif. Après, forcément, tu attends beaucoup plus d'Ousmane Dembélé.
Ah bah merci.
Ousmane Dembélé, tu sais très bien qu'il va avoir du déchet dans son jeu, parce que c'est un joueur qui est
c'est obligatoire dans son style de jeu qu'il ait du déchet. Il va faire des actions exceptionnelles et il va t'en louper certaines choses parce qu'il prend beaucoup de risques. Mais je trouve que en fait, son bilan, pour moi, il est plutôt positif dans le sens où il était beaucoup plus prolifique. Il a marqué des buts, il a quasiment égalé son nombre de buts en équipe de France.
Arrête, c'est pas David Trezeguet. Arrête.
Et tu me laisses parler quand même.
Sur cette Coupe du Monde,
il a mis 3 buts contre l'équipe B de la Norvège.
Attends, c'est quand même. Eh oui, et c'est comme le prochain match qui est un match cacahuète. Et s'ils se font détruire sur ce match cacahuète, on a tous les enfoncés.
Donc du coup, les amis, les buts. Et c'est comme si moi, je disais que mon
il les a mis, la situation dans laquelle il a mis les buts, excuse-moi, Jérôme, la situation dans laquelle il a mis les buts contre la Norvège, que ce soit la Norvège ou que ce soit Donnarumma dans les buts, fallait les mettre ces buts, c'est des buts de grande qualité.
Mathieu, rentre au verdict.
Ça me rassure sur mon but contre la Norvège.
Mon verdict, j'espère que Jérôme, il est prêt parce que là, je vais le coucher, là. Là, je vais lui faire très, très mal. Je vais juste expliquer un truc, Jérôme. Au PSG, le premier défenseur, c'est qui chez nous? Il s'appelle Ousmane Dembélé. Il joue en pointe. Il joue numéro 9. Est-ce que Kiki, il a fait le quart de ce que Dembélé a fait toute la saison?
Non, mais on parle d'un joueur offensif. Tu me parles de la défense.
La défense de quoi? Le pressing. Le pressing, Jérôme.
Ah, d'accord. Donc tu le juges sans le ballon, toi aussi, Dembélé. Ah, d'accord.
Alors, je t'explique. Le match cacahuète.
Le football, c'est avec le ballon.
Tu as laissé parler les gens quand même, incroyable.
Toi-même t'as dit, t'as mis un but en équipe de France, t'étais latéral. Oui. Lui, il a joué latéral droit, il a mis un hat.
Ça n'a rien à voir avec moi, mais dans ces cas-là, Mathieu, je te réponds juste. C'est pas la question de comparer à moi. Dans ces cas-là, je parle pas avec toi.
T'as jamais mis
les pieds sur un terrain de foot dans ces cas-là.
Donc voilà. Donc j'ai jamais comparé Dembélé à toi.
Tu viens de le faire. Donc moi, je te dis juste que je te réponds juste que c'est une connerie de pouvoir comparer déjà mes performances avec celles d'Ousmane.
Et
à ce que je sache, de toute façon, j'y suis déjà. Mais à entendre des bêtises comme ça, excuse-moi, j'ai obligé de réagir. Le mec, la première chose qu'il te dit au PSG, c'est le premier défenseur. Mais comment? Mais Dembélé, il est pas ballon d'or parce qu'il a défendu. Il est ballon d'or parce qu'il a mis des buts, parce qu'il a fait des passes dé et parce qu'il a une parce que techniquement, il était bien au-dessus des autres. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le Mathieu? Prenez des auditeurs qui valent le coup.
Ah non, Mathieu, il rappelle quand il veut.
Non, mais arrête.
La liberté d'expression.
Mais sans déconner. Et en plus, Mathieu, il dit que j'étais latéral. Non, j'ai jamais joué latéral gauche.
Merci, Mathieu, pour ce verdict sans appel. Victoire de la doublette.
Tu jouais pas piston?
Non, j'étais latéral. Ah, mais latéral, il a dit. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai fini meilleur passeur de la Ligue des Champions. Ça, c'est sûr.
Voilà.
Il t'a couché, le Mathieu. Ouais.
Merci, Mathieu.
Pour te répondre, Ousmane, un an de Ligue 1, qui c'est qui a le record de passe D sur une année de Ligue 1?
Bravo, et surtout bravo pour les vidéos.
Mais j'ai pas eu le ballon.
Allez, dans un instant, Blue Melon avec nous.
J'aurais pu l'avoir en 2004.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Centre de Dominique. On l'a compris. Le but de Platini. Égalisation de Michel Platini.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme et on remercie Mathieu d'être venu juge tout à l'heure, c'était magnifique.
Ah, t'a mis, le Mathieu.
On est avec Benoît Costil, avec Jean-Michel Larquet. Ouais, il voulait me coucher.
Procès à Mathieu, le pauvre.
Mais il voulait me coucher, Benoît, je t'annonce. Là, il y a la fatigue de la compétition, donc un peu au quart de tour.
Respecte les institutions, t'as mal parlé au juge, tu vas te condamner lourdement.
Ouais, mais je sais pas, vous l'avez coupé ou quoi? Ou il a raccroché?
Non, écoute, il a rendu son verdict, il est
Il n'y a plus de réseau.
Ouais,
dans un quart d'heure, Rotten se chauffe. Ouais. Est-ce que le parcours d'Argentine... Mais non, il reviendra quand il veut. Il rappellera d'ailleurs. Le parcours de l'Argentine est fascinant? 32-16 pour en débattre.
Vu son analyse, il ne doit pas nous écouter.
L'Argentine a rejoint l'Espagne en finale hier, mais tout de suite. Parlons donc de ce match pour la troisième place.
RMC, Rotten sans flamme.
Bruno Bellone sera avec nous. Qui va nous dire ce que
pied gauche.
Comment ça se passe?
Incroyable.
Bruno Bellone.
Meilleur que le tien, non ?
Ah ouais, oui. Ouais, je m'incline avec Godoubé.
C'est vrai ?
Ah ouais, je m'incline.
Ah, c'est beau, ça.
Ah, je m'incline. Toi aussi, t'as des inspirations. Moi, j'en ai eu. Et, ah, et Bruno Bellone en a fait partie.
Hello, Jérôme.
Hello, Jérôme.
Bruno Bellone, plus beau pied gauche que Jérôme Rotel. Il a disputé deux petites finales en 82 et 86 avec nous, Jérôme, ce soir.
Salut, Bruno.
Salut Jérôme, merci pour salut, les compliments. Ça me fait plaisir, ça me touche vis-à-vis de toi. C'est super.
C'est parce que c'est gratuit que tu le fais aussi.
Ah ben c'est totalement mérité de toute façon et c'est vraiment un plaisir de t'avoir, Bruno.
Ah ouais. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous suis. Vous inquiétez pas.
Bon, bah, tant mieux. Bah, écoute, ça tombe bien. On a besoin de ton expertise parce que des matchs cacahuètes, t'en as joué deux. Donc, est-ce que
dans deux contextes différents, hein, 82, c'était le traumatisme de Séville.
Ouais,
et en 86, c'était différent.
Ouais, 82, c'était plus compliqué parce que il y avait eu l'histoire avec Batiston, malheureusement, et on est sorti du match énervé et tout, et puis Platini et tout ça, ils ont voulu qu'on arrête, quoi, qu'on parte carrément, qu'on joue pas la troisième et quatrième place. Et nous, qu'on n'avait pas joué, on s'est dit bon, quand même, on a été là, on vous a soutenu, je veux dire, c'est la moindre des choses, c'est qu'on nous on joue quand même, tu vois. Et donc, ça a fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas titulaire, qui n'ont pas joué. Et nous, ça nous a permis de jouer la troisième et quatrième place contre la Pologne. Voilà.
Et, et cette défaite malheureuse, 3-2, hein, d'ailleurs, Bruno, ce jour.
Oui, parce qu'en plus, on avait fait un bon match. Hein, et malheureusement, c'est vrai qu'on aurait préféré finir troisième. Mais nous, déjà, rien que d'être sur le terrain et d'avoir fait un match, ça nous a fait du bien, quoi. Parce qu'on nous appelait les coiffeurs, quand même, hein.
Oui. Ouais, bon, je te rassure, on l'a pris aussi le titre de coiffeur après quelques années après, grâce à vous.
Ouais, exactement.
Est-ce que c'est dur, Bruno, de se motiver lorsqu'on peut plus accéder au rêve d'être champion du monde? Est-ce que là, il y a quelques jours compliqués pour les joueurs de l'équipe de France?
Ben, si tu veux, ce qui est compliqué, c'est d'être dans la tribune avec les petits fours et de regarder les autres jouer. Ça, c'est dur. Voilà, parce que c'est pour ça qu'on nous a surnommé les coiffeurs. Parce que nous, on était dans les tribunes, on regardait le match comme les gens qui venaient au match, quoi. Et c'est vrai qu'arrivé un moment, on se dit, on ne fait pas partie du groupe, on est un peu écarté, quoi. Mais quand il venait l'entraînement, tout ça, on essayait de montrer aux autres que bon, on était présents et qu'on avait envie de jouer nous aussi, quoi. Voilà, tout simplement.
Et Bruno, et le contexte de 86, certainement différent, déjà pas la même dramaturgie sur la demi-finale, même si. On se souvient de cette équipe de France, de votre équipe de France avec ce match contre le Brésil en quart de finale qui était fantastique.
La demi finale c'était déjà contre l'Allemagne, c'était encore.
Et puis encore la demi contre l'Allemagne, la défaite. Alors moi, attends, j'étais gamin, hein, donc moi c'est mes premiers souvenirs. J'essaye de me rappeler comme ça, mais je me dis avec le recul, ils l'ont pas joué cette finale, cette demi finale.
Tu parles des Français
contre l'Allemagne.
2-0 la défaite.
Ah, 2-0, non, ça, non, ils n'ont pas joué. Ça, on est passé un peu à travers aussi. Et si tu veux, on a eu un peu l'impression de se retrouver, si tu veux, en 82, où on les a bougés, par contre, là, en 82, tu vois. Et on s'est dit, en 86, on va essayer de se venger de ce qu'ils nous ont fait, tu vois. Physiquement, je pense qu'on avait des lacunes et qu'on n'a pas pu rivaliser avec eux à ce niveau-là, tu vois, physiquement.
Sur le match de la troisième place face à la Belgique, est-ce que ça change quelque chose alors de le gagner, ce fameux match, pour terminer sur le podium?
Oui, parce que franchement, on avait à cœur, nous, des remplaçants, puisqu'on était remplaçants, nous. Donc, ils ont fait rentrer tout le monde, même Jean-François Larios, rappelez-vous, qu'il a émis carrément à l'écart. Hein. Lui, il jouait même plus. Et il a fait le match de la troisième et quatrième place et on était trop contents puisqu'on a été on a gagné la médaille de bronze et nous on était vachement fiers parce que ça nous faisait un bien fou d'être sur le terrain et de rencontrer la Belgique qui est une bonne équipe, hein. On a tout donné et je pense que voilà, on était fiers de nous, quoi, tout simplement.
Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à Deschamps, c'est d'aligner tous les remplaçants? Ou est-ce que tu penses qu'il faut mettre des joueurs comme Kylian Mbappé qui veut marquer une tonne de buts?
Moi, je pense pas qu'il va faire ça. Je pense qu'il va vouloir prendre la troisième place et dire, voilà, et sortir, voilà, avec les honneurs, quoi. C'est la moindre des choses. Ouais. Voilà, c'est sa dernière. Donc, je pense pas qu'il va s'amuser à mettre des remplaçants pour jouer la troisième et quatrième place. Nous, ils l'ont fait parce qu'en définitive, on avait plus rien à jouer. Ils se sont dit, bon, s'il faut, ils vont perdre contre la Belgique. Mais en définitive, on était tellement motivés pour gagner ce match que on a fait un super match, quoi, hein, vraiment.
Hein. Ouais. Et les Belges avaient tourné à l'époque ou pas?
Non, pas du tout. Ils étaient costauds, les Belges. Ah non, non. Non, on n'a pas joué contre une équipe de toquants. Hein.
Eh ouais. Bruno, la différence pour la composition d'équipe, excuse, mais en 82, tu es éliminé après un très bon match de l'équipe de France. Oui. On est bien d'accord. Bon, oui. On est bon. Et le sélectionneur, qui sélectionne par définition, et il peut remettre les joueurs qui lui ont donné satisfaction, même s'il y a eu une défaite. Là, on n'est pas dans le même contexte, Bruno. Là, tu viens d'être battu en demi-finale avec beaucoup de joueurs qui sont quand même passés au travers. Oui. Et que ceux qui n'ont pas joué, à un moment ou un autre, le sélectionneur, il peut considérer que certains ne méritent plus leur sélection. On est bien d'accord?
Oui, bien sûr.
Ah bon? Bien sûr. Et donc, donner sa chance à ceux qui ont le moins joué et pense qu'il n'amoindrit pas l'équipe.
Bah, je vous pose la question, moi, à tous. Est-ce que vous mettriez Kylian Mbappé titulaire samedi pour qu'il aille terminer meilleur buteur de la compète? Bruno, est-ce que toi, tu le mettrais titulaire?
Moi, je pense qu'il va le mettre, hein, parce qu'il veut peut-être finir meilleur buteur pour quand même sortir la tête haute.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ben? Tu mettrais Mbappé, toi?
Oui, mais je pense que le coach, il va faire un état des lieux des troupes, en fait. Et après, en discutant avec chacun, après, comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, Didier Deschamps, c'est lui qui dictera la fin, qui fera ses choix. Mais moi, je mettrais la meilleure équipe possible pour aller prendre cette troisième place. Et je pense que les joueurs ont envie de bien finir par rapport à Didier Deschamps aussi. Didier Deschamps qui a donné l'opportunité à tout le monde de venir en sélection.
Oui. Ben, on est bien d'accord, comme Bruno Gestin, il y en a qui, sur le dernier match, ça peut peut-être ne pas durer, mais sur le dernier match, qui ne mérite pas d'être sélectionné.
Ah, mais bien sûr, mais ça, c'est des choix footballistiques qui vont être dictés par le dernier match et ce que le Didier Deschamps va en ressortir.
Un grand merci à Bruno Bellone qui est venu.
Bruno, merci beaucoup.
Bruno, tu as toujours ta médaille.
Ça m'a fait plaisir d'être parmi vous, vraiment. Un
plaisir partagé.
Ah, tu vas revenir alors.
Bien sûr.
Il a toujours la médaille, tu as toujours la médaille.
Vous
vas-y.
Quand vous
t'as toujours la médaille. La médaille de la troisième place, tu l'as toujours?
Non, on me l'a volée.
Ah mince,
ouais.
Malheureusement. Non, Jean-Michel, non mais ça.
Mais malheureusement, non, je l'ai pas. Mais bon, ça reste à vie, ça reste à vie. Et pas de médaille.
Bravo Bruno.
Écoute, allez, merci encore.
Bruno, bientôt.
Merci à tous.
Bisous.
Et à partir de 19h dans Roten sans flamme, Roten se chou. Est-ce que vous êtes fasciné par le parcours de l'Argentine? Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.